6h à Paris, 8h à Damas, 5h en temps universel. Merci d'écouter RFI.
Andréane Mélard.
Bonjour Alban Le Prince.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une de votre journal, ces massacres en Syrie.
Plus de 1400 morts, dont 973 civils alaouites. Cela se passe dans l'ouest du pays. Les ONG sont elles aussi visées. Nous entendrons le témoignage du directeur de l'une d'elles dans un instant. La crainte dans la région, c'est le risque de contagion de ces tensions entre alaouites et sunnites, au Liban notamment. Les précisions dans ce journal. Au sommaire, également le gel de l'aide militaire américaine à l'Ukraine, l'avancée des troupes russes. Certains pays européens relancent le débat sur le retour du service militaire. Le Premier ministre polonais se dit pour et veut doubler les effectifs dans l'armée. Et puis la riposte chinoise. Pékin impose dès aujourd'hui de nouveaux droits de douane sur les produits américains. Des produits qui n'ont pas été choisis au hasard. Les explications à suivre.
Ahmed al-Sharr, le président syrien par intérim, promet de poursuivre les responsables de l'effusion de sang des civils.
Depuis jeudi dernier, la Syrie est confrontée à des affrontements entre fidèles de l'ancien régime de Bachar al-Assad et nouvelles autorités dans les régions de Tartous et Latakia. Le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Plus de 1450 morts, dont 973 civils alaouites, au moins d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des violences qui touchent aussi les chrétiens, selon le patriarche orthodoxe d'Antioche, mais aussi les membres de l'ONG Norwegian Refugee Council. Federico Giacchetti est le directeur du bureau syrien de l'organisation.
Our staff have been witnessing burning of houses, looting.
Notre personnel a été témoin d'incendies de maisons et de pillages. Les maisons de certains membres de notre personnel ont été fouillées. Des hommes et des femmes de leur foyer ont été interrogés et menacés. Il y a aussi des membres de la famille de notre personnel qui ont été tués. Et notre personnel n'est pas en mesure de les atteindre et d'enterrer leurs corps parce qu'ils ont trop peur d'être dehors, par crainte pour leur propre sécurité.
Des propos recueillis par Elisa Robuchon. L'administration autonome kurde de Syrie a condamné pour sa part des pratiques qui ramènent à une époque noire que le peuple syrien ne veut pas revivre. À Damas, la capitale, les autorités sont intervenues pour disperser un sit-in de protestation après l'irruption d'une contre-manifestation anti-alaouite.
Des tensions qui inquiètent dans la région.
Au Liban, notamment, où la communauté alaouite craint, elle aussi, un conflit avec les sunnites, comme à Tripoli, deuxième ville du pays. Les précisions du correspondant de RFI, Paul Khalifet.
Les notables alaouites de Tripoli ont remis dimanche aux autorités libanaises un jeune homme de la communauté suspecté d'avoir poignardé un adolescent. Après cet incident, des tirs nourris avaient été entendus dans des quartiers populaires sunnites et alaouites où l'armée libanaise a renforcé dimanche son déploiement par crainte d'une explosion de la situation. Les combats en Syrie ont provoqué une nouvelle vague d'exode vers le Liban. Une dizaine de milliers de Syriens, dont des alaouites et des chrétiens, ont trouvé refuge dans la plaine du Hakkar, proche de la frontière avec la Syrie, selon un élu local cité par la télévision saoudienne Al-Hadas. Une éventuelle contagion des événements qui se déroulent sur la côte syrienne inquiète la classe politique libanaise. Gebran Bessil, président du courant patriotique libre, fondé par l'ancien chef de l'État Michel Aoun, a évoqué un grand danger qui guette l'ensemble de la région du Proche-Orient. Selon ce responsable politique chrétien, le Liban ne sera pas épargné par le projet de partage de la Syrie. Le Parti socialiste progressiste a également tiré la sonnette d'alarme. Ce qui se passe en Syrie constitue une menace pour la sécurité de toute la région, affirme dans un communiqué cette formation qui représente la communauté druze au Liban. Paul Khalifet, Beyrouth, RFI.
Toujours au Proche-Orient, Israël accentue la pression sur le Hamas.
Alors qu'une délégation israélienne est attendue aujourd'hui à Doha, au Qatar, pour négocier la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, Israël a annoncé hier couper l'approvisionnement en électricité de l'enclave palestinienne, la seule ligne qui alimente notamment la principale usine de dessalement de l'eau, le tout une semaine après avoir suspendu l'entrée de l'aide humanitaire.
Négociation au Qatar, en Arabie Saoudite aujourd'hui aussi. Russie, cette fois-ci concernant la guerre en Ukraine.
Le président ukrainien doit y arriver aujourd'hui pour rencontrer le prince héritier Mohamed Ben Salman à la veille d'une réunion entre responsables ukrainiens et américains, la première depuis la rencontre houleuse entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche et l'annonce du gel de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Alors que sur le front, Moscou progresse pour la première fois depuis 2022. La Russie a revendiqué hier une poussée dans la région de Soumy et la prise de 4 villages dans la région de Koursk.
Et face à la menace russe aux relations qui pourraient se réchauffer entre Donald Trump et Vladimir Poutine, le débat sur un retour du service militaire obligatoire dans certains pays européens refait surface.
Comme en Pologne, vendredi, Donald Tusk, le Premier ministre, a dit y songer. Objectif, élever le niveau des effectifs de l'armée à 500 000 hommes, mais les principaux intéressés n'ont pas l'air franchement convaincus, comme l'a constaté notre correspondant Adrien Sarlat dans les rues de Varsovie.
À la sortie du centre commercial, où Łukasz, 32 ans, ne se voit pas du tout enfiler un treillis. Lunettes de soleil sur le nez, grand imperméable blanc et tasse de café à la main, le banquier estime que tout le monde n'est pas taillé pour intégrer les rangs de l'armée.
Personnellement, je ne me sens pas prêt à intégrer l'armée et faire un service militaire. Je préfère participer au renforcement de l'armée en payant des impôts, par exemple, plutôt qu'en me formant moi-même.
Sur le trottoir d'en face, Wojciech ajuste son képi aux couleurs camouflage. Lui a fait son service militaire lorsqu'il était encore obligatoire et voit cette décision plutôt d'un bon œil, même si les modalités de la formation restent floues pour l'instant.
Durant le communisme, c'était malsain et ça n'avait aucun sens, car ça nous prenait 2 ans de notre vie et la seule chose qu'on y apprenait, c'était à boire des coups. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faudrait former le plus d'hommes possible au maniement des armes pour qu'ils aient une idée de ce que c'est. La question, c'est combien de temps durera la formation et quelle forme elle prendra.
Des questions qui restent pour l'instant sans réponse. Depuis 3 ans déjà, l'armée de défense territoriale permet à des civils de suivre un entraînement militaire un week-end par mois. À terme, Varsovie entend dédier 5% de son PIB à la création d'une armée de 500 000 hommes, la plus puissante d'Europe. Adrien Sarlat, Varsovie. RFI.
Après avoir décidé d'imposer des droits de douane de 20% sur les produits chinois, le bras de fer commercial entre Washington et Pékin continue.
Œil pour œil, à partir d'aujourd'hui, de nouveaux droits de douane chinois s'appliquent sur de nombreux produits agricoles américains. 15% sur le poulet, le blé, le maïs, le coton, 10% sur le soja, le porc, le bœuf ou encore les fruits et légumes. Et la liste des produits concernés ne doit rien au hasard. Les explications de Cléa Broderst.
Pékin cible les agriculteurs américains, une base électorale clé de Donald Trump. Droits de douane sur le soja, le maïs, le poulet, mais aussi sur le charbon, le gaz naturel liquéfié et les camionnettes. Objectif, frapper l'économie des régions qui ont voté pour lui et accentuer la pression politique sur Washington. L'agriculture américaine est particulièrement vulnérable. La Chine représente un marché essentiel et avec des taxes de 10 à 15%, les produits américains deviennent moins compétitifs. Résultat, cela pourrait entraîner une baisse de volume d'exportation et des difficultés financières pour les agriculteurs américains. Déjà, entre 2022 et 2024, les exportations sont passées de 42 à 29 milliards de dollars, ce qui a fragilisé de nombreux agriculteurs. Mais Pékin calcule ses coûts. En visant des secteurs où des fournisseurs alternatifs existent, elle limite l'impact sur son propre marché, tout en renforçant sa position face aux États-Unis. Avec ces sanctions, la guerre commerciale pourrait s'intensifier, ce qui pourrait freiner la croissance mondiale, perturber les chaînes d'approvisionnement et alourdir la facture pour les consommateurs. La balle est désormais dans le camp de Washington. Cléa Broderst, Pékin, RFI.
Et interrogé sur le risque d'une récession aux États-Unis suite à la multiplication des droits de douane par une journaliste de Fox News hier, Donald Trump est resté très flou. Qui sait, il y a une période de transition, je déteste prédire les choses comme ça, a répondu le président américain qui a même ouvert la porte à une nouvelle augmentation de ses droits de douane.
Cela fait un peu plus d'une semaine maintenant que le mois de Ramadan a commencé.
Et au Mali, il tombe juste avant le début de la saison sèche. Le mercure flirte avec les 40 degrés et les coupures de courant sont fréquente. Depuis près de 2 ans, elle pénalise la population des dizaines d'heures successives sans courant. Une épreuve supplémentaire, même s'il y a du mieux depuis plusieurs jours à Bamako. David Baché.
Modibo Keïta habite le quartier de Sébéni Koro. Comme presque tous les Maliens pendant le Ramadan, ce qu'il attend chaque jour avec impatience, c'est la rupture du jeûne. Et comme tous les Maliens, ce qu'il craint, c'est la coupure d'électricité.
Celui qui jeûne de 5h du matin jusqu'à 18h45 le soir, pas manger, pas boire, l'homme a besoin de la fraîcheur. Mais c'est ça qui devient un arrêt rare compte tenu du rupture de courant. Même pendant la journée tout entière, on n'a pas les moyens d'utiliser nos ventilateurs, que ce soit les ventilos, les climatiseurs, les frigos, pour essayer d'avoir de la fraîcheur. Nous nous souffrons durement.
Les autorités maliennes de transition avaient promis une augmentation de 80% de la desserte d'électricité pendant le ramadan pour atteindre 19 heures de courant chaque jour. Mariam Dramé habite le quartier de Lafiabougou. L'objectif est loin d'être atteint, témoigne-t-elle, mais elle note tout de même une amélioration.
Hier soir, on a coupé vers 23 heures. Ce matin, on a eu à 7 heures du matin. C'est un peu mieux par rapport à l'habitude.
Pour la rupture du jeûne, vous aviez du courant?
Oui, on a eu du courant. Ça nous soulage un peu, mais c'est pas tous les jours quand même. Quand il y a coupure sur le malheur de la rupture, on allume notre batterie lithium qu'on a acheté il n'y a pas longtemps.
Le ramadan s'achèvera à la toute fin du mois. D'ici là, les températures devraient encore augmenter. Plus généralement, les coupures d'électricité généralisées pénalisent fortement toutes les activités économiques, des grandes entreprises aux petits artisans.
David Bachet.
Trois jours de deuil national décrété en Argentine.
Après les inondations meurtrières qui ont frappé Bahia Blanca dans le centre du pays, dans la ville, il est tombé en quelques heures 400 litres d'eau par mètre carré, l'équivalent d'un an de pluie. Le bilan est lourd, au moins 16 morts, une centaine de personnes portées disparues selon les autorités locales. Le maire de Bahia Blanca estime de son côté le montant des dégâts à 370 millions d'euros.
On termine ce journal en musique, Alban, avec le retour d'une diva. 170 millions de disques vendus dans le monde, on parle de Lady Gaga.
Et après plusieurs déceptions commerciales, la chanteuse fait son comeback avec son 7e album, Mayhem. Un retour aux sources pop pour Lady Gaga, sur lequel revient Olivier Roger.
Abracadabra, c'est le titre de ce morceau, une formule magique pour une artiste qui ne la trouve visiblement plus depuis quelques années. Lady Gaga a en effet connu des insuccès au cinéma mais aussi en studio. Mayhem se veut un retour aux sources. Hélas, on ne peut pas toujours être et avoir été, et Mayhem collectionne de façon assez stéréotypée les références aux glorieuses années 90, le tout sous la houlette de ses producteurs historiques, accompagné sur trois morceaux par le français Geza Feldstein. Guitare et scansion funk sur ce titre qu'il y a, mais Lady Gaga ne démontre qu'une chose, Prince est bel et bien mort, elle ne pourra pas le ressusciter. Les inconditionnels de la star jugeront qu'elle renoue avec la veine de The Fame, son masterpiece de 2008. Les plus exigeants se souviendront qu'à l'époque, elle chantait ceci. La roulette russe, ce n'est pas pareil sans armes. On serait tenté d'ajouter, en la voyant copier une autre italo-américaine célèbre, que la pop, ce n'est pas pareil sans Madonna.
Lady Gaga qui revient donc avec son 7e album, Mayhem. Elle sera d'ailleurs en concert dans les prochains mois au festival de musique Coachella en Californie les 11 et 18 avril, mais aussi les 26 et 27 avril à Mexico et le 3 mai à Rio de Janeiro.
Merci Alban Le Prince. Vous revenez tout à l'heure à 8h heure de Paris. Pour l'instant, il est 6h13, nous sommes le lundi 10 mars 2025. Bienvenue si vous nous rejoignez au programme de cette nouvelle édition de RFI Matin. Les violences meurtrières dans l'ouest syrien depuis 4 jours, pas loin de 1000 morts civiles comptabilisées par l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui dénonce des meurtres, des exécutions sommaires et des opérations de nettoyage ethnique. Témoignage à écouter ce matin sur RFI.
Toutes les nuits, nous entendons des cris et nous apprenons qu'il y a de nouveaux morts. Nous avons l'impression que nous allons mourir à notre tour. Le régime précédent a commis de nombreux crimes et ce gouvernement fait la même chose. Il tue même des hommes âgés.
Récit à réécouter à 7h et un autre sera aussi à retrouver à 8h. Autre témoignage ce matin sur RFI, celui d'un rescapé des centres d'escroquerie en Asie, des camps où lui, comme bien d'autres, sous les menaces et la violence quotidienne, se retrouvait à mener des arnaques en ligne. Su raconte.
Chaque personne recevait un ordinateur et quatre téléphones Apple équipés de cartes SIM birmanes, tous d'occasion. Là, on créait des comptes Gmail, puis Facebook, Instagram. On gérait 20 comptes chacun. Il y avait 14 équipes et projets de fraude. L'équipe dont je faisais partie se concentrait sur la crypto-monnaie. L'objectif ultime restait de guider le client dans son investissement. Il n'y avait pas de script fixe, juste quelques tactiques générales.
Ce témoignage à écouter juste après 8h et nous appellerons ensuite notre correspondant correspondant à Bangkok pour parler de la coopération mise en place entre la Chine et la Thaïlande pour tenter d'endiguer ces vastes réseaux frauduleux. RFI Matin également au programme ce lundi. Nos invités, Clément Beaune, fraîchement nommé en France haut-commissaire au plan. Rendez-vous à 7h20 tout à l'heure également. Ce matin, Nicéphore Soglo, l'ancien président béninois, vient de publier ses mémoires chez L'Harmattan. Il répond aux questions de Christophe Boisbouvier. Au programme également le Gabon, la RDC, l'Ukraine, les États-Unis, le Canada et le futur Premier ministre Marc Carney, choisi comme successeur de Justin Trudeau en pleine guerre commerciale avec le voisin américain. Au programme aussi ce matin, le sport, la presse, la musique, notre choix musical juste avant 9h ce matin, le combo franco-éthiopien Koutou. Belle journée sur RFI. Et on commence cette matinée au Japon, le pays qui demain rendra hommage aux 18 500 morts de la catastrophe de Fukushima. C'était il y a 14 ans, le 11 mars 2011, un tremblement de terre suivi d'un tsunami, deux drames meurtriers indissociables de l'inondation qui a suivi dans la centrale de Fukushima, entraînant la pire catastrophe nucléaire depuis celle de Tchernobyl en 1986. Bonjour Bruno Duval.
Bonjour.
Des commémorations sont donc prévues demain, Bruno, et elle s'annonce tendue cette année.
Oui, car la Cour suprême vient d'acquitter définitivement les anciens dirigeants de l'opérateur de la centrale, le groupe TEPCO, qui, depuis 10 ans, était poursuivi au pénal pour défaut de prévoyance ayant entraîné la mort sans intention de la donner. À ses yeux, on ne peut leur reprocher d'avoir manqué de précautions à l'époque, car un séisme et un tsunami d'une telle ampleur étaient imprévisibles. Depuis 2008, des experts mettaient en garde contre la possibilité d'une vague de 16 mètres de haut. Mais pour la Cour, il ne s'agissait que de modèles prédictifs à long terme, donc hypothétiques. Cet arrêt indigne ces Tokyoïtes.
Tant de morts, de souffrances, de dégâts et aucune peine de prison, pas le moindre yen d'amende, mais enfin, les bras m'en tombent.
Quelle indignité, quelle inhumanité. Cet acquittement, c'est... Les mots me manquent.
Ce qu'on attendait de cette Cour, c'est qu'elle dise ce qui est l'évidence même. Des centrales nucléaires dans un pays où se produisent tant de catastrophes majeures, c'est insensé, irresponsable et impardonnable.
Après un tel déni de justice, on sera encore plus nombreux à manifester contre le redémarrage de réacteurs, la prolongation de leur durée d'exploitation et la construction de nouvelles centrales.
Alors que dit le gouvernement, Bruno ?
Rien, il se tait dans toutes les langues, très gêné visiblement, et doublement. D'abord, on vient de l'entendre, cet arrêt galvanise les opposants à la relance du nucléaire, les autorités ayant récemment décidé de construire de nouvelles centrales, alors que depuis la catastrophe de Fukushima, la priorité était de réduire au maximum la dépendance du Japon à cette énergie. Ensuite, le tollé suscité par cet arrêt mettra encore un peu plus le gouvernement sur la sellette demain, en ce jour anniversaire où, chaque année, il est dans ses petits souliers. Parce que beaucoup reste à faire à Fukushima. Des dizaines de milliers d'évacués ne peuvent toujours pas rentrer chez eux, car des zones entières restent inhabitables en raison des radiations. Et puis, le démantèlement de la centrale progresse très lentement. Par exemple, plus de 800 tonnes de débris et de combustible atomique hautement radioactif s'entassent dans les réacteurs. Eh bien, 14 ans après, on a réussi à en extraire moins d'un gramme. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent d'un raisin sec. Le démantèlement de la centrale devait durer 30 à 40 ans, mais, alerte les experts, à ce train-là, et si on n'accélère pas le tempo, il prendra un siècle ou deux.
Bruno Duval, correspondant de RFI à Tokyo, avec nous pour la Une en Asie ce matin, et on suivra bien sûr ses commémorations demain au Japon. Merci à vous Bruno. RFI 6h18 à Paris, dans 10 minutes, le retour de l'information africaine, et dans une heure très exactement, notre grand invité international. Bonjour Arnaud Pontus.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Ce matin, vous recevez dans nos studios à Paris le fraîchement nommé haut-commissaire au plan en France, c'était il y a quelques jours. Clément Beaune va répondre à vos questions.
Oui, il a été choisi pour piloter cette institution chargée de réfléchir sur le temps long. Il remplace François Bayrou, devenu Premier ministre. Le Haut Commissariat au Plan, c'est le lieu de la prospective et de l'anticipation. Clément Beaune va peut-être d'abord devoir prouver son utilité, puisque il y a seulement quelques semaines, les sénateurs avaient voté la suppression du Haut Commissariat pour faire des économies budgétaires. Avant de prendre ses fonctions, ce macroniste de la première heure avait été conseiller spécial du président de la République, puis ministre de de l'Europe. Il nous dira comment il observe la situation internationale, le rapprochement Trump-Poutine, le risque de guerre, et puisque c'est maintenant dans ses attributions, comment se préparer aux turbulences à venir et réarmer l'Europe. Quel levier, quelles possibilités. Le haut-commissaire au plan Clément Beaune avec nous tout à l'heure.
A tout à l'heure Arnaud, 6h20 temps universel pour cet entretien, 7h20 à Paris. En France, c'est une première aujourd'hui. Une enseignante comparaît jusqu'à demain devant le tribunal correctionnel de Pontoise en région parisienne pour avoir harcelé 3 de ses élèves, dont Evaël, qui avait mis fin à ses jours à la fin de l'année scolaire en 2019. Humiliation, persécution, isolement. Le harcèlement scolaire est un fléau. Plus d'un enfant par classe est concerné en moyenne. En très grande majorité, les harceleurs sont d'autres camarades, mais parfois, les professeurs sont pointés du doigt. Laurence Théo a recueilli le témoignage de Stéphanie, dont le fils, Mathis, a été harcelé par un professeur de mathématiques.
Plusieurs signes alertent Stéphanie. À chaque fois que son fils, Mathis, rentre d'une journée où il a eu cours de mathématiques, il n'est pas comme les autres jours. Le jeune garçon, si vivant d'habitude, se referme sur lui-même.
Je vois son comportement, je vois sa tristesse dans le regard. Plus d'une fois, il a pleuré.
Autre indice, le niveau scolaire du collégien en classe de 3e s'effondre alors qu'il a toujours été un bon élève. Et ce n'est pas par manque de travail. À force de questionner son fils, Stéphanie découvre que Mathis est harcelé par son professeur de mathématiques.
Ce professeur l'a tout le temps humilié avec des mots, des comportements. Vous voyez, t'es pas capable, c'est pas la peine de lever les mains. Alors à chaque fois, c'est lui, Mathis, baisse ta main. C'est bon, on a compris. Ou lui balancer les stylos sur la tête aussi, ou il le met dans un coin au fond de la classe.
L'enseignant rabaisse constamment le jeune élève et toujours devant toute la classe.
Il faisait comprendre sous forme d'humiliation devant les autres élèves en disant « bon, bah, de toute façon, t'es pas capable. Il faut qu'il y pense à aller chercher du travail. Bah, mon fils n'avait que 13 ans. »
Comment Mathis l'a-t-il ressenti ?
Ça l'a beaucoup affecté, ça l'a beaucoup attristé. À certains moments, il pensait réellement d'abandonner, de suivre les conseils du prof.
Mathis perd peu à peu confiance en lui, mais il ne veut pas que sa mère intervienne auprès de l'établissement.
Mathis a essayé de me dissuader. Il me dit « Maman, surtout, n'y va pas, tu ne fais qu'empirer des problèmes. » Il n'avait pas des représailles du prof, d'ailleurs, il en a eu.
Et Stéphanie hésitera à le faire comme de nombreux parents, comme l'explique Nora Tirane de l'association Marion la main tendue, qui lutte contre le harcèlement scolaire.
Il y a la peur des parents, parce qu'ils nous disent « on a besoin d'aide et en même temps j'ai peur que l'institution se retourne contre nous, que le professeur soit convoqué ou nous convoque en tant que parents et qu'il y ait des représailles vis-à-vis de notre enfant, c'est encore un tabou aujourd'hui en France. » En fait, pour eux, c'est le sentiment de s'attaquer à l'institution.
On apprend à Stéphanie qu'une enseignante est jugée ce lundi parce qu'elle a harcelé une petite fille de 11 ans qui a mis fin à ses jours.
Je comprends ces enfants-là qui vivent dans le malade total, là, Oui, la souffrance peut faire peut-être réagir à ce niveau-là, vous voyez. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de chance que mon fils m'en parle, parce que ça aurait pu être aussi également mon fils.
Sollicité, Mathis n'a pas souhaité s'exprimer sur le harcèlement qu'il a subi. Il a changé d'établissement scolaire et poursuit aujourd'hui ses études en internat.
Laurence Théo sur RFI, et concernant l'affaire de cette enseignante devant la justice aujourd'hui et demain, elle risque jusqu'à 3 ans de prison. C'est l'une des très nombreuses et l'une des premières décisions prises par l'administration Trump, le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, texte qui engage la plupart des pays du monde à limiter le réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés, voire 1 degré et demi, un retrait qui pourrait en entraîner d'autres. D'autres pays menacent à leur tour de quitter cet accord de Paris. Lesquels et avec quelles conséquences? C'est notre question d'environnement ce matin. Bonjour Jeanne Richard.
Bonjour.
Alors il faut d'abord noter, Jeanne, que le retrait américain était déjà une très mauvaise nouvelle dans la lutte contre le changement climatique.
Les États-Unis sont le deuxième plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde, le premier responsable historique du changement climatique. Donc, sans leur participation à l'effort collectif, c'est sûr qu'il sera bien plus difficile de limiter la hausse des températures mondiales et les catastrophes qui en découlent. Et avec ce retrait, c'est aussi l'aide financière climatique pour les pays du Sud qui est remise en question. Les Les États-Unis viennent d'ailleurs de quitter le partenariat de transition énergétique avec l'Afrique du Sud et l'Indonésie.
Et d'ailleurs, l'Indonésie envisage à son tour de quitter l'accord de Paris.
Oui, ça n'est pas officiel, pas encore du moins, mais plusieurs dirigeants évoquent cette possibilité. Ils présentent désormais l'accord de Paris comme une contrainte pour le développement du pays, car il faudrait arrêter la production de pétrole et le déboisement à tout va pour planter les palmiers à huile et fermer les centrales à charbon polluantes. Alors, sans la contrepartie, c'est-à-dire sans l'argent américain pour aider à la transition, le pays est face à un dilemme, selon les autorités, qui en profitent pour mettre la pression sur les autres pays riches pour qu'ils débloquent des fonds plus vite. Alvaro Artigas est chercheur associé à Sciences Po.
C'est lié d'abord à un projet de développement économique. Et finalement, vous avez un dernier point qui est essentiel. C'est-à-dire, c'est pas les pays émergents qui ont creusé, en fait, ce trou climatique. C'est pas les pays émergents qui sont responsables de ces questions climatiques et par conséquent, c'est pas à nous de faire les efforts. Et c'est pas nous qui allons faire les efforts si les États-Unis en plus abandonnent les accords.
Jeanne, un autre grand pays envisage de quitter l'accord de Paris, c'est l'Argentine.
Oui, le porte-parole du président a annoncé début février qu'une éventuelle sortie de l'accord de Paris était en cours d'évaluation. Le président Javier Milei est climato-sceptique. Sur la même ligne que Donald Trump, il veut ignorer les preuves scientifiques et s'affranchir des organisations internationales, quand bien même lutter contre le changement climatique est une question de survie. Alors, dans les faits, quitter l'accord de Paris serait assez compliqué pour l'Argentine, qui risquerait de se couper de ses partenaires économiques, qui tiennent à cet accord, l'Europe et le Brésil notamment, qui organisent la COP cette année. Et puis en interne, il faudrait au président l'aval du Parlement, ce qui n'est pas gagné.
En tout cas, les conséquences de ces possibles retraits seraient très graves pour le climat.
Oui, l'Indonésie est quand même maintenant le 7e émetteur de gaz à effet de serre au monde. L'Argentine est un géant agro-industriel, un secteur très polluant. S'ils quittent l'accord de Paris, on peut imaginer que leurs émissions de gaz à effet de serre augmentent sans frein. Et puis cela pourrait inciter encore d'autres États à leur emboîter le pas. En tout cas, on le voit, la question des aides financières internationales et les échanges économiques pèsent plus que jamais sur l'engagement climatique des pays.
Jeanne Richard pour la question d'environnement sur RFI. Merci beaucoup. Allez, on reste ensemble tout de suite. Un petit peu de musique avant le retour de l'information sur RFI. C'est sur notre playlist ce mois-ci, Burna Boy, Bundle by Bundle. When it comes to class, I beat the chat. Chop this life, make a new job. You might have a $1 million when I smile for the picture. That's why I don't put no ice in my liquor. My Benny, he gave me long coat. That's when we throw the money with the drum, bundle by bundle. My Benny, he gave me long coat. That's when we throw the money with the drum, bundle by bundle. Okay, was okay, but I know see ya. Money go jump, okay, but I know see ya. Ay, 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 make that push. I'm gonna say you dead, yeah, if I know see. Yeah. Are you Johnson? Are you Johnson? Only base, go to go to meche, meche. I chop a car and wear my mind, no day. As long as it's for my belly, me, I'm okay. Vanity, everything I vanity. As I say, money, day. Vanity for my head. Bondo, bondo. Bondo by bondo. Bondo, bondo, bondo. Bondo by bondo. Lion, no, they humble for jungle. Me, I just do as I want to. Get my canna from Toronto. Check out my love, jumbo by jumbo. My Benny, he gave me long coat. That's when we throw the money with the drum, bundle by bundle. My Benny, he gave me long coat. That's when we throw the money with the drum, bundle by bundle. My Benny, he gave me long coat. That's when we throw the money with the drum, bundle by bundle. My Benny, he gave me long coat. That's when we throw the money with the drum, bundle by bundle. Who the motunga? Today not today. Smoking with them, see one thing keep me up. Never too late. Baji, Oshé, itamo wa uti beti mo sunle. Daka sufe, ready balunde. Do anyhow as long as me they pay. Emi fe jaye today. Emi fe jaye. Why you tell another person waiting? I tell you, I always like to say the truth and shame the devil. I know they fall that can level, cause I know get time for the people way today. Uru Bolenu, me Mr. Nuba nothing. I know they hear you. 100,000 people when I pull up for the venue. Why you be say I say they also welu welu? When I get money like it Tony Elu Melu. My Benny, he gave me long coat. That's when we throw the money with the drum, bundle by bundle. My Benny, he gave me long coat. That's when we throw the money with the drum, bundle by bundle. Bundle by bundle par Burna Boy, la star des artistes nigérians sur la playlist RFI ce mois-ci, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur notre site RFI Musique. Vous restez avec nous dans une minute, le journal.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
mouvements convulsifs, hallucinations visuelles. L'épilepsie est la maladie neurologique chronique de l'enfant la plus fréquente. Quelle prise en charge ?
Appelez-nous au 33 1 84 22 75 75 ou écrivez-nous à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Ce lundi sur RFI.
Pourquoi une telle soif de métal ?
Autour de la question avec Charlie Dupiot.
Depuis près de 5000 ans, l'humanité creuse les sols en quête de fer, d'or, d'argent ou de cuivre. Comment les civilisations se sont construites et consolidées grâce à ces minerais ? Nous allons revenir sur cette saga du sous-sol au plus près de ces matières premières essentielles.
Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.